18h sur France Inter. Bonsoir Fabienne Sintès.
Ah bah ça vous a fait du bien apparemment, Charline.
Oh écoutez, les SUV, on n'en peut plus. Hein.
Allez, passez une bonne soirée. Calmez-vous, Charline, et passez une bonne soirée. On se retrouve demain. Nous, c'est parti pour le 18-20 de France Inter. Poussez la porte et bienvenue sur la planète et sa banlieue. Et comme tous les jours, c'est avec le journal que l'on commence. Et Amélie Perrier, bonsoir Amélie.
Bonsoir Fabienne, bonsoir à tous.
L'essentiel ce lundi commence avec une conclusion qui ne va pas forcément de soi.
Le grand débat répond-il à la colère jaune? Pas sûr, la restitution faite aujourd'hui par le gouvernement ne colle pas toujours au slogan entendu sur les ronds-points. Les oppositions politiques restent sceptiques, elles aussi. Les gilets jaunes, confortés par le témoignage d'un gendarme, ils dénoncent pour la première fois des violences policières lors d'une manifestation parisienne. Lactalis reconnu coupable de polluer les eaux de l'Isère dans l'une de ses fromageries. Mais l'amende infligée est loin d'être dissuasive, dénoncent les défenseurs de l'environnement. Le Festival d'Avignon se réjouit de la libération, même partielle, du metteur en scène Kirill Serebrennikov, bête noire du Kremlin. Une de ses pièces est programmée à Avignon cet été. Nuages et pluie, de retour la météo à la fin de ce journal avec Jean-Pierre Hameau.
À 18h15, un jour dans le monde, France Inter aussi lance sa campagne avant les européennes pour vous faire comprendre l'Europe. Ses arcanes, nous le faisons dans Un jour dans le monde le plus souvent possible. Voilà qu'il y a un hashtag désormais qui s'appelle Votre Europe et vous y trouverez tout ce que vous entendez, tout ce que vous entendrez sur Inter et sur Radio France au sujet de l'Europe, ainsi que notre invité ce soir, c'est l'historien Robert Franck. Nous sommes en Birmanie également, exportateur et consommateur d'amphétamines et d'opium, et vous verrez ce que ça veut dire. Et puis 19h20, le téléphone sonne, ça y est, le printemps est là, le salon du running s'installe mercredi avant le marathon de Paris et chiche qu'on se met à la course. Amélie,
allez,
chiche que vous rejoignez la cohorte de ceux qu'on appelle les joggeurs, enfin qu'on appelait les joggeurs, maintenant on les appelle les runners, bref, ceux qui font de la course à pied et qui savent parler de ce moment où les endorphines transforment l'effort en plaisir. 01 45 24 7000.
France Inter.
Les 8 mois, 5 mois de manifestation des Gilets jaunes, 2 mois de grands débats pour accoucher d'une réponse aujourd'hui.
La métaphore filée, y compris par le Premier ministre. Nous avons lancé le grand débat, se reprend-il. Sous la verrière du Grand Palais à Paris, Édouard Philippe a délivré sa propre synthèse et ses premiers mots, baisser les impôts et les baisser vite. Autre préoccupation forte, l'environnement. Bonsoir Élodie Forêt.
Bonsoir.
Vous avez suivi cette restitution. Ce qui surprend aujourd'hui, c'est l'écart entre les revendications des Gilets jaunes et cette restitution. Alors le bébé a-t-il vraiment le même ADN ?
Là, c'est un ADN clairement modifié. Dans la synthèse présentée ce matin, il faut vraiment scruter les graphiques pour y apercevoir les mots RIC et ISF qui ornent pourtant depuis des semaines le dos des Gilets jaunes. Le référendum d'initiative citoyenne notamment est quasiment inexistant. Quant à l'ISF, il a été rapidement évoqué par Frédéric Michaud de l'Institut Opinionway.
Pour rendre la fiscalité plus juste et plus efficace, les participants suggèrent de taxer davantage les hauts revenus. Proposition qui se décline de plusieurs manières. La suppression des niches fiscales, le rétablissement de l'impôt sur la fortune et l'augmentation du nombre de tranches d'imposition.
Alors au total, environ 10% de ceux qui ont répondu au questionnaire sur le site du Grand Débat sont favorables à un rétablissement de l'ISF contre 70% des Français dans un récent sondage IFOP. Un écart qui n'étonne pas la garante Isabelle Falque-Pierrotin. Elle met en garde contre une mauvaise interprétation de ces résultats.
Attention aux chiffres. Ce Grand Débat n'est pas un sondage. Il n'a pas les caractéristiques de représentativité d'un sondage. Donc, les pourcentages sont les pourcentages des personnes qui se sont exprimées, voire dans certains cas des personnes qui ont répondu à une question.
Eh oui, sans vrai panel sociologique, pas de vraie représentativité des Français. C'est aussi ce que dit l'opposition pour qui seul l'électorat d'En Marche ou presque s'est exprimé, notamment sur Internet. Se pose aussi la question de l'agglomération de sources très diverses, questionnaires, réunions publiques, cahiers de doléances. Une agglomération qui rend, selon plusieurs experts, la lecture de ces résultats très très compliquée.
Merci beaucoup Élodie Forêt. Des Gilets jaunes pas forcément convaincus, on le présume. Donc on observera la mobilisation samedi prochain. Côté politique aussi, on reste dubitatif à l'image du député Fabien Roussel, patron des communistes, il l'a dit à Maxence Lambrecq.
On n'a pas du tout les mêmes lunettes pour lire les contributions, parce que ce que nous avons nous retenu de ce grand débat, c'était surtout une exigence de justice fiscale. Justice fiscale, ça ne veut pas dire baisser les impôts. Justice fiscale, ça veut dire remettre des impôts sur les plus riches, remettre l'ISF et baisser du coup les impôts sur les retraités notamment. C'est ce qui a été exigé. Ensuite, concernant la dépense publique, je fais attention à ce que le gouvernement va annoncer. Car nous craignons qu'il, au nom de la réduction de la dépense publique, qu'il fasse encore des économies sur les services publics auxquels les Français sont très attachés.
Le député communiste Fabien Roussel. Les Gilets jaunes au cœur d'un documentaire diffusé ce soir également sur les violences policières, avec le témoignage inédit d'un commandant de groupement de gendarmes mobiles. Donc, dans ce documentaire sur BFM, il reconnaît des violences sur les manifestants. Le militaire fait référence au troisième samedi de mobilisation. C'était le 1er décembre dernier. Des CRS s'en prennent à des manifestants dans un Burger King près de la place de l'Étoile. Emmanuel Leclerc, vous avez vu la vidéo. Cette scène a été un point de départ pour dénoncer les dérapages des forces de l'ordre.
Oui, on la connaît bien, cette vidéo où l'on voit des CRS frapper, notamment un homme à terre, 13 coups de matraque au total, avant de le laisser repartir. Le parquet de Paris avait ouvert une enquête préliminaire après la diffusion de la séquence. Mais là, c'est un colonel de gendarmerie, donc Michael Di Meo, qui la commente au micro de nos confrères de BFM.
Quand les manifestants parlent de violences policières, quand je vois ça, je suis obligé d'aller dans leur sens. Oui, il y a des violences policières et là, on est sur des violences policières.
Un jugement qui stupéfait Patrice Ribeiro, le patron de Synergie, l'un des deux principaux syndicats d'officiers de police.
On ne sait pas si ces manifestants avaient ou non dans les mains des armes. On ne sait pas ce qui s'est passé avant. Donc tout ça, encore une fois, est assez péremptoire. Il y a visiblement une stratégie de la gendarmerie depuis le mouvement des Gilets jaunes, peut-être pour faire oublier Sivens, peut-être pour faire oublier l'affaire Adama Traoré, qui vise à créer un écran de fumée, notamment sur les policiers. Nous n'avons pas de leçon à recevoir des gendarmes, mais en tout état de cause, nos collègues bénéficient de la présomption d'innocence. Donc nous ne voyons pas pourquoi un officier de gendarmerie viendrait donner des leçons ou des conclusions tout à fait abusives.
Et l'enquête, on en est où, Emmanuel, à ce stade ?
Eh bien, plusieurs hauts responsables des compagnies républicaines de sécurité ont été entendus ces derniers jours au siège de l'IGPN, la police des polices. Et c'est une information France Inter. Tous les agents qui se trouvaient à l'intérieur du Burger King ont été identifiés, des CRS basés à Metz. Ils seront entendus dans les prochains jours.
Merci Emmanuel Leclerc. Et les images et témoignages sont à retrouver sur notre site franceinter.fr. La justice fiscale, grand thème de ces derniers mois. On l'a vu, l'Assemblée nationale commence à débattre aujourd'hui du projet de loi GAFA. Le fisc français veut faire payer les géants du numérique, les Google, Apple, Facebook ou Amazon. Aujourd'hui, grâce à des montages complexes, ils paient en moyenne 9% d'impôts contre 23% pour les autres. La loi s'inspire d'un projet européen qui n'a pas abouti le mois dernier.
Le groupe Lactalis au cœur d'un nouveau scandale.
L'histoire d'une fromagerie en Isère appartenant donc à Lactalis. Elle s'appelle l'Étoile du Vercors. Elle est condamnée aujourd'hui à 100 000 euros d'amende, dont 50 000 euros avec sursis. Elle a été reconnue coupable d'avoir rejeté ses eaux usées industrielles non traitées directement dans l'Isère. Le parquet, lors du procès, avait dénoncé le sentiment d'impunité du géant laitier et requis l'amende maximale, 500 000 euros. Cette condamnation à 100 000 euros, Élise Montagnan, est donc une demi-victoire pour les défenseurs de la nature.
Lors du procès en novembre dernier, le procureur de la République avait estimé que Lactalis a économisé entre 800 000 et 1 million d'euros en déversant ses eaux usées directement dans la rivière. Alors 50 000 euros d'amende, c'est plutôt rentable, dit Jacques Pulou, vice-président de la FRAPNA Isère, l'une des associations de protection de la nature qui s'est constituée partie civile.
C'est sûr que c'est une incitation quand même à polluer pour d'autres groupes qui seraient dans les mêmes situations, quoi. Et la solution, elle n'est pas encore mise en œuvre, donc ça veut dire pendant encore des mois, peut-être des années, ben on va avoir cette pollution dans l'Isère, quoi.
Lactalis voulait construire sa propre station d'épuration, ce que refusait la commune de Saint-Just-Clé, qui aurait préféré qu'elle se raccorde aux installations existantes. Alors pour Maître Buisson-Fuselier, avocat du groupe, on ne peut pas parler d'économie.
Pour nous, c'est une hérésie de parler d'économie, puisqu'il suffit de constater, ce qu'on a oublié souvent, c'est la somme qu'on avait consignée pour la station d'épuration. Cette somme consignée était de 2,3 millions d'euros. Elle est toujours d'ailleurs consignée volontairement à ce jour par nos soins. Donc si vraiment on avait voulu économiser de l'argent, on n'était pas prêt à consigner de telles sommes.
Et cette station d'épuration, elle va finalement se faire, puisque le maire de Saint-Just-Clé a donné son autorisation il y a une semaine, en précisant qu'il cédait face à la pression des services de l'État.
Justice encore, où s'en était pris à des boucheries ou des restaurants dans le nord de la France pour défendre le véganisme. Un couple a écopé de 6 et 10 mois de prison ferme. Ils vont devoir également rembourser les dégâts, plusieurs milliers d'euros. Lui a obtenu 1 million d'euros devant les prud'hommes. L'ancien sélectionneur du 15 de France, Guy Noves, obtient réparation après son licenciement par la Fédération française de rugby en décembre 2017. L'entraîneur réclamait près de 3 fois plus, mais 1 million d'euros et la condamnation de la Fédération le satisfont pour l'instant.
Les prud'hommes étaient très clairs à ce sujet. La photographe n'y est pas. Il est certain qu'aujourd'hui, c'est ce qu'on attendait. Ça fait de nombreux mois que j'étais renfermé sur moi-même et je crois que mes très proches l'ont bien ressenti. Vous dire que l'épreuve est terminée, c'est quand même toujours dur d'avoir eu à subir en fin de vie professionnelle ce genre d'accusation. Mais ce qui est sûr, je n'oublierai jamais. Puis surtout, je me suis rendu compte qu'il y avait énormément de gens autour de moi. Il n'y a que voir les réseaux sociaux, 28 200 et quelques personnes qui me soutenaient. Mes proches, mes amis, je crois que c'est là où on se rend compte à quel point les personnes vous aiment et sont près de vous. Donc au moins ça m'aura servi à ça, de faire le bilan de toutes les personnes qui tiennent à moi et comme je tiens beaucoup à elles.
Guy Novès avec Stéphanie Mora, il renonce donc à faire appel. En revanche, la Fédération de rugby a un mois pour le faire si elle le souhaite.
Il est 18h10 sur France Inter, les dernières heures d'une campagne sans merci en Israël.
Élection législative demain et le Premier ministre Benjamin Netanyahou brandit la menace d'une défaite de son camp pour mobiliser les indécis. Face à lui, le général Benny Gantz lui promet la fin du règne de Bibi, comme on surnomme là-bas le chef du gouvernement. Campagne très disputée où chacun durcit ses positions et cette fois encore, les ultra-orthodoxes n'ont pas fait de place sur leur liste pour les femmes, malgré les condamnations déjà par la Cour suprême. Des femmes ultra-orthodoxes ont donc décidé de se présenter sur les listes des autres partis. C'est la correspondance d'Étienne Monin.
Yitzhak Pindrius est un élu ultra-orthodoxe. Il est candidat pour l'une des plus importantes formations religieuses. Il incarne la rigidité des ultras qui interdisent l'entrée des femmes en politique.
C'est la loi juive, c'est écrit depuis des milliers d'années. Vous savez, on est vieux jeu, on ne change pas, on n'essaie pas de raconter des histoires. On est orthodoxe, on défend les lois rabbiniques qui ont été écrites il y a des milliers d'années.
Cet été, la Cour suprême a condamné l'un des partis religieux pour discrimination, mais ça n'a rien changé. Alors des femmes orthodoxes s'organisent pour essayer de mettre un pied en politique. Esti Shushan est ultra-orthodoxe, elle anime le mouvement Niv Harot. Elle vient de former deux groupes de femmes qui cherchent maintenant une place dans les formations traditionnelles.
L'objectif final, c'est d'obtenir qu'il y ait des femmes dans les listes de partis ultra-orthodoxes, mais pour l'instant c'est impossible parce qu'ils disent que leurs portes sont fermées. Donc si on ne peut pas rentrer par la porte, on va essayer d'entrer par la fenêtre. On essaye de faire cela en entrant dans tous les partis qui veulent des femmes ultra-orthodoxes sur leur liste.
Et deux femmes ultra-orthodoxes sont aujourd'hui sur des listes de partis classiques, l'une d'entre elles en position éligible. Jérusalem, Étienne Monin, France Inter.
Des images de guerre en Libye, le trafic aérien est suspendu à Tripoli, la capitale, après une frappe aérienne contre l'aéroport, le seul ouvert là-bas. Depuis la semaine dernière, le maréchal Haftar, tout puissant à l'est, a lancé une offensive pour conquérir Tripoli. On recense déjà au moins 35 morts depuis jeudi. Le Soudan se révolte. Près de 2500 manifestants ont été arrêtés samedi, annonce aujourd'hui le gouvernement. 7 ont été tués dans ces marches contre le président Omar el-Béchir. Les opposants réclament le soutien de l'armée et des négociations avec les militaires pour former un gouvernement de transition. Jean-Marc Four y revient dans sa chronique. Libre ou presque, le réalisateur Kirill Serebrennikov va pouvoir sortir de chez lui. La justice russe vient de lever son assignation à résidence. Il doit quand même rester en Russie. Depuis près de 2 ans, il ne peut pas sortir, privé de téléphone et d'accès à Internet. L'artiste est accusé officiellement de détournement de fonds publics, mais ses défenseurs dénoncent un acharnement contre un libre penseur, auteur de pièces osées où il mêle la politique, la sexualité, la religion, très loin donc du conservatisme du Kremlin. Parmi ses soutiens, Olivier Py, le patron du Festival d'Avignon, qui lui a commandé une pièce pour l'édition de l'été prochain, une pièce qui s'appelle Outside. Nous avons joint Olivier Py.
Alors, je suis assez peu calé en droit russe. Je me méfie toujours un petit peu. Mais enfin, il me semble que c'est une avancée. Ça lui permet toujours pas de venir au Festival d'Avignon cet été. Mais j'ai l'impression que quelque chose se radoucit dans la présomption d'innocence. Ça va lui permettre de voir ses collaborateurs et de travailler avec eux, ce qui était notre plus grande difficulté, puisqu'il ne pouvait voir ses assistants que les jours de procès. Et les jours de procès étaient perlés. C'est-à-dire qu'il y avait un jour comme ça perdu de tous les 2 mois ou tous les 3 mois. C'est pour ça que depuis plus d'un an, on attend une avancée dans son procès. Puis il pourra probablement aussi préparer mieux sa défense. Il faut bien dire que ce procès est abracadabrante. On lui reproche d'avoir détourné des fonds qu'il a mis dans le festival, donc il n'a pas pu les détourner puisque le festival a eu lieu. Moi, je fais partie de ceux qui sont convaincus que c'est un procès politique, donc c'est probablement un enjeu politique qui agit aussi sur sa possible libération.
Voilà, le dramaturge et directeur du Festival d'Avignon, Olivier Pille, répondait à Stéphane Capron.
Amélie Perrier, merci beaucoup. N'allez pas trop loin, Amélie, on se retrouve sous les radars.
Effectivement, on va parler des 100 ans du Bauhaus. Un nouveau musée ouvre en Allemagne, il est très politique. Et puis à New York aussi, un nouvel espace culturel prend là une dimension sociale. On terminera avec une autre forme d'art que vous adorez, Fabienne, le catch féminin. 80 000 femmes dans un stade américain hier pour une nouvelle super championne.
Et ben on verra ça autour de 18h37. Je mettrai mon habit de lumière. Nous parlons Europe ce soir avant les élections et pour tout comprendre aux enjeux, comprendre à nos voisins européens aussi. France Inter et Radio France lancent un hashtag commun à toute la maison. Votre Europe, vous y trouvez tout ce que vous entendez sur le sujet, tout ce que vous avez envie de savoir aussi, notamment Robert Franck, qui est historien spécialiste de l'Europe et qui est notre invité dans un instant. Ce soir, nous sommes également en Birmanie. Et puis 19h20, le téléphone sonne, que celui qui n'a jamais juré de se mettre à la course à pied nous lance la première chaussure. Cette saison, de dire qu'il faut se bouger, qu'il faut courir. Mais le jogging, le running, d'ailleurs, il faudrait qu'on dit plus du tout jogging, c'est encore autre chose. Comment devient-on accro? Comment en prend-on réellement plaisir? Décidément, ça m'est tellement inconnu que j'arrive même pas à en parler. Allez, on en parle en tout cas ensemble au 01 45 24 7000.
La météo avec Gauthier, la marque française de mobilier contemporain. Et pour trouver le mobilier de vos rêves, rendez-vous en magasin et sur gauthier.fr.
En même temps, la dernière fois que j'ai couru, c'était 20 minutes pour le bac. Comment voulez-vous que je m'en sorte?
Allez, siècle.
Jean-Pierre Rameau, merci. Amélie, sortez maintenant. Une matinée nuageuse et un après-midi instable.
Absolument. La journée va débuter sous un ciel à dominante grise de la Bretagne à Midi-Pyrénées avec en prime quelques bandes brouillard. Prévoyez de faibles pluies sous un ciel couvert le long des frontières du Nord. Partout ailleurs, le ciel sera souvent encombré, excepté à l'est du Rhône où votre matinée sera ensoleillée. Et puis l'après-midi, on aura encore de belles éclaircies. Elles reviendront, c'est pas qu'on les aura encore, de la Bretagne au Pays de Loire et jusque vers le nord de l'Aquitaine. Pas d'évolution près des frontières du Nord, la couverture nuageuse restera compacte, apportant de faibles pluies. Et partout ailleurs, comme vous l'avez dit, les averses vont se développer, elles vont s'intensifier au fil des heures pour prendre localement un caractère orageux. Et attention, les cumuls de pluie sous ces cellules orageuses seront parfois importants.
Alors, et apparemment, ce ne sera pas mieux mercredi, Jean-Pierre.
Et non, prévoyez un temps instable avec des averses orageuses dans la moitié sud, gris et pluvieux dans la moitié nord.